believe in the power of kindness.
I'm singing a higher harmony.
Ooh, I believe in the power of love. I believe in the power of kindness. Ooh, I believe in the power of love.
Tranche de vie, vagabondage sans prétention dans nos existences.
Ooh, I believe in the power of love.
Chers auditeurs de Tranche de vie, dans la belle et paisible campagne périgourdine, un hameau avec quelques vieilles maisons, dont une est flanquée d'une yourte. C'est là que demeurent Dominique et Magali, qui ont accepté de nous parler de leur vie d'enseignante. Mais des enseignantes pas tout à fait comme les autres. Dominique, Magali, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Libre en Périgord pour nous parler de votre travail et de vos passions. Qui veut présenter votre école ? Magali ?
Eh bien, bonjour. Merci de nous faire l'honneur de venir jusqu'à notre maison. Présenter l'école, je peux vous dire que c'est une école privée hors contrat qui s'appelle Au Village des Enfants et qui est implantée sur la commune de Saint-Mêmes-de-Pérérolles. Voilà, c'est une école associative qui, là, aujourd'hui, intègre 11 enfants et donc 2 adultes, plus des jeunes en service civique, des bénévoles, des volontaires. Voilà, et donc je travaille avec Dominique au quotidien. Et le hasard de la vie a fait que Dominique habite dans le jardin et que nous sommes en même temps colocataires.
Dominique, votre travail à l'école, précisez-nous un petit peu ce qu'il est. Est-ce que vous êtes la directrice de cette école ? Est-ce que vous êtes une enseignante à plein temps ? Comment ça se passe ?
En fait, cette école, on l'a créée toutes les deux avec Magali. Donc, on est dans la 8e année d'existence de cette école. Et Magali a pris le poste de direction, parce qu'elle a ses capacités de diriger. Et moi, je suis enseignante de l'éducation nationale, au départ, et institutrice, enfin professeure des écoles. Et donc, j'ai cette responsabilité des apprentissages. Donc voilà, mais dans les faits, c'est vrai qu'on les frontières sont floues. Dans les faits, on travaille ensemble, main dans la main.
Alors, quel genre de pédagogie dispensez-vous dans cette école ? On va redonner la parole à Magali parce qu'elle a quelque chose à ajouter.
Oui. Du coup, avant de parler de pédagogie, nous, ce qui était important pour nous, c'était de clarifier c'est quoi notre mission dans cette école. Et notre mission, c'est de préparer les enfants à devenir les futurs adultes au monde de demain. Et les préparer à des enjeux qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Et avec ça, on utilise des outils, des pédagogies, qui en fait s'adaptent, on essaie de s'adapter à qui sont les enfants. On a 3 axes dans cette école, 3 axes principaux. Qui sont, un, les apprentissages. C'est ça, Domi, qu'est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ? Donc avec une pédagogie plurielle, donc là, on va piocher et on va se servir dans qu'est-ce qui est vivant, si ça marche comme ça avec tel enfant, s'il préfère ça, s'il est plus à l'aise, et puis challenger un petit peu. Le deuxième axe, c'est vraiment le vivre ensemble, la coopération, la collaboration. Donc là, on a des outils comme le conseil de paix, donc ça, c'est un peu la médiation. Comment on arrive à être en paix face à une situation. Le conseil d'école, comment on prend les décisions. Presque toutes les règles sont discutables, sauf les règles de sécurité. On est très joueuses, on est très joueuses. On aime beaucoup jouer avec les enfants, même juste sur les règles. Aller regarder qu'est-ce que ça chamboulerait si on faisait comme ça, quoi. Et le troisième axe, ça serait l'éco-citoyenneté avec toute cette conscience la conscience de soi, qui je suis, de quoi j'ai besoin. Toi, qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui est bon pour la planète, pour l'avenir, pour les enfants.
Alors, ça, vous avez parlé de cette pédagogie, mais elle s'applique à des enfants qui ont quel âge ?
Donc, dans notre école, les enfants, ils vont de 3 ans à 11 ans. En fait, ils font le cursus de l'école primaire. Et après, ils rejoignent le collège.
Et alors, ils sont groupés. Et donc, votre enseignement s'adresse à tous les enfants. Est-ce qu'il y a des groupes d'âge ou...
Alors, il y a deux groupes. Il y a le groupe de la maternelle, des maternelles, qui est à peu près... Hein, jusqu'au CP, à peu près.
Il y a le groupe de ceux qui sont à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et le groupe qui n'y est pas.
Oui. D'accord. Voilà. Donc, en gros, à peu près à la maternelle, maternelle CP, et les plus grands, en fait, qu'on prépare après à rejoindre le collège. Oui.
Alors, ce qu'a dit Magali tout à l'heure avec ses trois axes, ça rappelle beaucoup Freinet. Est-ce que vous vous inspirez donc de ces pédagogies alternatives, de Montessori, de Freinet ?
Donc Magali tout à l'heure a cité les pédagogies plurielles et en fait oui, on est inspiré par Maria Montessori. On a fait toutes les deux une formation Montessori, mais on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas cloisonner et rester dans une pédagogie particulière. Donc en fait, on s'est rendu compte que les enfants ont des besoins différents. Et du coup, on utilise en effet des pédagogies Freinet, etc. Par exemple, chez Freinet, c'est la pédagogie de projet. Pédagogie de projet, monter un projet, l'écrire et puis le mettre en œuvre. Voilà, on va piocher même les pédagogies traditionnelles, en fait. Il y a des enfants qui ont besoin de travailler de façon traditionnelle sur une feuille et puis... Voilà. En fait, on fait appel à beaucoup de choses différentes. Ouais.
Vous avez des enfants qui sont passés par le moule des pédagogies traditionnelles et qui ont rejoint votre école ?
Oui, oui, oui. Et bien là, c'est à nous de nous adapter aussi. C'est-à-dire qu'on part de là où ils en sont, ce qu'ils ont découvert, et on regarde si par exemple, la pédagogie Maria Montessori peut fonctionner avec cet enfant ou si en fait il n'en est pas là et là on va faire autrement en fait. On va faire autrement.
Alors ça doit être très intéressant à observer. Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous avez assisté à des transformations extraordinaires ? Je sais pas, des gamins qui ne voulaient absolument pas mordre à l'enseignement traditionnel et qui ont explosé quand ils sont passés dans votre système ?
En fait, pour nous, ça ne repose pas sur la pédagogie. Le fait que l'enfant il ait envie d'apprendre ou pas, ce que nous, on a expérimenté, c'est qu'en fait, en premier, ça se passe dans la relation entre l'adulte et l'enfant. C'est-à-dire que c'est notre qualité de présence, notre qualité de relationner avec l'enfant qui va le mettre en confiance dans aller vers les apprentissages, creuser, se dépasser. Mais que, en fait, ça ne repose pas sur une pédagogie, ça repose sur notre posture, sur comment on relationne. Et nous, dans la cour, on court, on joue. On ne les regarde pas jouer et on n'est pas des adultes qui surveillent. Nous jouons.
Quelle est la participation des parents ?
Alors, les parents sont très présents. C'est une école vraiment associative. Donc, les parents font partie de l'association. Et on estime qu'on est coéducateurs. En fait, il y a une cohérence entre les règles de l'école et ce et la vie à la maison. Nous, c'est ce qu'on demande aux parents, d'être en cohérence avec notre fonctionnement, quoi. Voilà, sinon, ils sont acteurs aussi, ils peuvent intervenir. S'ils ont des choses à partager aux enfants, ils peuvent intervenir dans l'école. Ils sont... Qu'est-ce qu'ils font encore ? Ils font le ménage, par exemple, le ménage de l'école. On a aussi une dimension importante à l'école, c'est la dimension de la nature, dans le cadre de l'éco-citoyenneté. Ouais. Et donc, on passe du temps en nature. Et donc, les parents, parfois, interviennent avec nous, viennent avec nous, passer du temps.
Mais alors, ça veut dire que vous avez quel profil sociologique des parents de vos élèves ? Ce sont des gens des ruraux ou ce sont des gens qui habitent à la campagne par choix ?
Eh bien, en fait, il y a tout. Il y a vraiment les familles, c'est très varié, c'est très divers, quoi. Il y a des personnes des revenus très aisés, qui travaillent. Il y a des personnes qui sont au RSA et qui font un choix de scolariser leurs enfants et de mettre le paquet ici. Il y a des gens qui vivent à Périgueux. Il y a des gens qui vivent à la campagne. Il y a quand même un profil de personnes qui tend vers changer de vie, qui tend vers revenir au calme. Voilà, il y a quand même un espèce d'exode, on peut sentir ça.
Il y a une majorité de, on va dire, néo-ruraux, quoi. Pour,
ouais, on va dire ça.
Pour l'urbanisation.
Pas que, mais il y a de ça, ouais.
Vos élèves, qu'est-ce que vous observez, vous, Dominique, qui avez l'expérience, la double expérience de l'enseignement traditionnel, officiel, et puis de cet enseignement que vous voulez rénover? Qu'est-ce que vous observez chez les élèves? Est-ce qu'ils vous paraissent plus à l'aise? Est-ce qu'ils vous paraissent progresser plus facilement? Est-ce qu'il y a des cas difficiles qui sont résolus par votre pédagogie?
Nous, ce qu'on observe, c'est que les enfants sont très détendus et qu'ils ont une relation à l'adulte qui est normale, voilà, qui est très naturelle en fait. Quand ils ont besoin de s'adresser à l'adulte, il n'y a pas, c'est très naturel, c'est très facile.
La relation, voilà,
il n'y a pas de hiérarchie, c'est une relation très saine et très, on rit beaucoup, on s'amuse beaucoup, et à côté de ça, on est exigeant dans ce qu'on leur demande, exigeant dans le sens où s'ils font quelque chose, ils le font bien, ils s'engagent. Voilà, nous on considère qu'on est des modèles en fait, donc ça veut dire que ce qu'on demande aux enfants, on se le demande à soi-même aussi, quoi.
Nous sommes des modèles, mais dans l'échec aussi et dans l'erreur.
Oui.
C'est-à-dire qu'être un modèle, ça ne veut pas dire tout réussir. Au contraire, c'est utiliser là où je me trompe pour me dire « Ah, je me suis trompée, ok, la prochaine fois, j'aimerais bien voir mieux. » Et ça, c'est très, très, très important.
Et c'est pour ça que les enfants sont très détendus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échec. J'apprends. Il y a de l'expérience et de l'apprentissage à travers l'échec, les réussites, etc.
Il vous arrive d'avoir un échec et puis de le reconnaître devant les enfants et d'en parler avec eux.
Évidemment. Nous, on s'excuse parfois. Parfois, quand on s'excuse auprès des enfants, on s'excuse devant eux, vis-à-vis l'une de l'autre. Enfin, on est vraiment dans cette démarche-là de...
Vous avez autant de filles que de garçons. Comment ça se passe? Vous avez une disproportion dans le...
Non, c'est pareil.
C'est pareil.
Ça dépend des années, en fait.
Autre question que je voulais vous poser. Est-ce que vous faites ça depuis 8 ans. Vous avez donc un recul suffisant maintenant pour avoir observé comment évoluaient les élèves qui rentraient au collège?
Oui. Disons que nous, en tant qu'école privée hors contrat, on est inspectés. On est inspecté normalement tous les ans. Bon, dans les fêtes, c'est pas tous les ans, parce que surtout avec le Covid, là, bon, ça a été un peu bousculé. Mais disons qu'on est aussi tenu de suivre les programmes de l'éducation nationale. En tout cas, de faire en sorte que les enfants acquièrent le socle commun, voilà, plus ou moins, hein, mais quand même. Mais surtout, nous, on n'est pas une école qui continue au collège et au lycée. Donc, les enfants vont entrer au collège. Donc, on estime qu'il faut qu'ils soient à l'aise pour entrer au collège. Du coup, il y a quand même une exigence de suivi du programme pour qu'ils soient à l'aise.
Ça, je comprends bien. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que, toute chose égale d'ailleurs, concernant les capacités naturelles des élèves auxquels vous avez affaire, Quelle est leur réussite ensuite quand ils rentrent au collège? Est-ce que vous observez qu'ils sont mieux, ça va mieux, et puis qu'il y a des domaines où vraiment ils sont excellents parce que ça vous paraît être le résultat de la pédagogie que vous leur avez appliquée?
Bon, ben, ils sont bons au collège. Ils ont des bonnes notes. Nous, on a des retours de bulletins, ils ont des bonnes notes, la majorité. Et puis aussi... Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont une relation à l'adulte qui est saine, qui est normale. Et puis, voilà, certains regrettent, par contre, qu'il n'y ait pas au collège, par exemple, d'espace de médiation et tout ça. Donc, la médiation entre pairs, voilà, en fait.
C'est-à-dire qu'ils souffrent un peu d'être confrontés à un moule complètement différent de l'ambiance qu'il y avait.
Ce sont des enfants qui s'adaptent, Je crois qu'ils sont heureux au collège, ceux qu'on a.
Ce que j'aurais envie de compléter, c'est que ils n'arrivent pas toujours avec le niveau. Parce qu'en fait, nous, on a aussi une espèce de sas où on ne met pas la pression. Donc, ils n'ont pas exactement vu tout ce que les autres ont vu, mais de toute façon, même ce que les autres ont vu, ils ne s'en rappellent pas. Donc, ça ne fait pas un grand décalage sur les apprentissages. Par contre, il y a quelque chose en eux qui est extrêmement flexible, extrêmement adaptable, extrêmement... ils ont les sens, comme s'ils ont les sens en éveil et ils captent ce qui se passe, quoi, dans quelque chose de plus large. Là, je peux parler de ma fille, en fait, qui vient de rentrer en collège cette année après avoir fait toute sa scolarité avec nous. En fait, elle ne connaissait pas ce fonctionnement et en 3 mois, elle a tout pigé. Elle se débrouille toute seule pour faire ses devoirs. Elle ne me demande rien. Elle oublie rien. Et pourtant, voilà. Et donc, les enfants qui sont aussi au collège, ce que moi, j'ai l'impression de percevoir aussi, c'est peut-être une chance, c'est qu'au collège, aujourd'hui, je crois qu'il y a une vision qui est plus large, qui regarde l'enfant dans quelque chose de plus large, dans comment il relationne, comment il se comporte. Et du coup, ça permet de mettre en lumière un peu la force qu'ils ont, ces enfants, ce qu'ils ont acquis.
Ils ont acquis chez nous. Mais alors, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a, vous avez l'impression qu'il y a eu une évolution quand même de la prise en charge des élèves au collège par rapport à votre fille, par exemple. Est-ce qu'elle revient en vous disant « je m'ennuie, il y a une discipline imbécile
». Non, elle rentre en disant que c'est nul, quoi. Il n'y a pas d'art. Les enfants, ils ont besoin de créativité. Comment est-ce qu'on pourrait... Comment, même nous, adultes, lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi, 5 jours par semaine, être assis sur une chaise? C'est où que je déploie ma créativité? C'est où que je sais quel est mon don dans la vie? Ça veut dire qu'il me reste le mercredi après-midi, le samedi, pour aller...
Ou les interclasses.
Voilà. Mais les interclasses, comme des troupeaux, ça me fait penser un peu à l'agriculture, les vaches un peu... Mais du coup, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace où ils peuvent vraiment... Qui je suis et qu'est-ce que j'aime faire, quoi.
Je trouve qu'on n'aide pas les enfants à avoir cette vision. Quelle vision? Vers quoi je vais? Quelles sont mes valeurs? Toute cette dimension-là, en fait, n'est pas exploitée. Alors qu'il y a tellement de choses à faire avec des jeunes qui ont 11, 12, 13, 14 ans. Ils se déploient, en fait.
Qu'est-ce qui vous arrive de parler de ça avec des enseignants du secondaire? Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils ne vous disent pas, mais on est condamné à entonner le savoir par les programmes? Puisque ça, c'est quand même le grand refrain du secondaire.
C'est là où on est coincé, hein, nous aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on est toujours entre deux chaises, là, entre, il y a ça qui est demandé. Nous, on voit bien que, OK, il y a un minimum à garder, mais on ne peut pas marcher complètement à contre-courant. Ou alors, si on marche à contre-courant, on prend son envol et on fonctionne autrement. Je voulais juste ajouter, là, par exemple, que pour, là, au collège, ce qu'ils ont mis en place, ça s'appelle le projet jeune. Et en fait, ils les accompagnent, les jeunes, en disant... c'est où que tu te sens faible? Ils choisissent une matière, ou à la maison, par exemple, j'arrive pas à faire ça tous les jours. Comment tu pourrais faire pour y arriver? Et qu'est-ce que ça va t'apporter? Et donc ça, c'est génial. Là, on voit que les enfants qui sortent de notre école, ça, c'est très porteur pour eux. Moi, j'ai envie de faire de l'exercice.
Une démarche à laquelle ils sont habitués.
C'est ça. Moi, j'ai besoin de faire des exercices, mais j'y arrive pas parce que après les devoirs, j'ai pas envie d'aller marcher. Mais en même temps, je vois que dans mon corps, je me sens un peu tout mou. Qu'est-ce que tu as besoin? Tous les soirs, de me donner le challenge d'aller marcher. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça va m'apporter que je serai fière de moi et que je serai en forme dans mon corps. Ils sont capables d'élaborer ça. Et ça, les enfants qui sont de notre école, ça, c'est quotidien.
L'aspect, alors, relation à la nature, ça, les parents adhèrent complètement?
Complètement.
Ils sont tous convaincus?
Complètement. Ils sont tous convaincus, ouais. Certains parents même viennent, certains viennent pour ça, quoi, parce qu'il y a cette dimension de la nature.
La journée en nature, c'est pas une journée où on arrive et on fait rien. Hein. On pratique des routines qu'on retrouve chez plein de cultures et qui sont, si on peut en nommer, il y a observer la nature, il y a chanter, l'allumage du feu. Le partage d'histoires, raconter des histoires comme vous êtes en train de récolter là. parce que c'est en racontant nos histoires qu'on intègre et qu'on, du coup, on chemine.
Jouer ensemble. Et des jeux qui sont un peu des patterns de la nature, en fait. Les prédateurs, la chaîne alimentaire, c'est des grands jeux où on est tous ensemble. Il n'y a pas vraiment de perdants, ça se transforme. Donc c'est des jeux très amusants, on s'amuse bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le pistage animalier ? Ouais.
Mais alors, vous êtes presque des chef-tains scouts.
Il y a des choses qu'on retrouve chez les scouts. Après, moi, je n'ai jamais été chez les scouts, donc je n'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison. Mais j'imagine qu'il y a des choses qu'on retrouve.
Il n'y avait pas que des choses négatives, en tout cas sous cet angle-là.
Mais oui. Ce qu'on appelle le froissartage. Le froissartage, c'est la fabrication des petits mobiliers, là.
Des cordes avec du jonc.
Oui, on fait de la vannerie aussi. On apprend à utiliser son couteau. Il y a le permis couteau. Ah, voilà, les enfants, ils adorent. Certains enfants, c'est leur journée préférée, c'est la journée préférée de la semaine.
On va terminer sur votre activité d'enseignante, vous demandant s'il y a des moments difficiles quand même, des moments de découragement, des moments de doute. Est-ce que ça arrive ?
Oui, ça arrive.
Ça arrive souvent chez les enseignants du système classique. Alors, est-ce que ça vous arrive aussi ?
Ça arrive. En règle générale, je trouve que quand même, on a une belle vie joyeuse. C'est plein de joie. Après, ce qui arrive, c'est de la fatigue un peu. C'est de la fatigue parce que ce sont des projets qui sont très chronophages, qui demandent beaucoup de... On est partout à la fois, on est enseignant, mais on s'occupe de l'association, on gère le collectif, donc il y a des réunions. Donc parfois, personnellement, parfois ça me pèse un peu tout ce temps, voilà, où j'aimerais parfois avoir un petit peu plus de temps pour moi. Mais en même temps, dans la balance, c'est chouette.
Formidable, vous avez préparé la transition et Magali, alors. Vous avez des moments aussi de... Il y a une baisse de tension.
Moi, ma baisse de tension, elle serait quand j'arrive le soir et que je suis affectée, que je suis pas dans une pleine satisfaction. C'est-à-dire, que ma pleine satisfaction, c'est je suis contente pour moi, je suis contente pour l'autre, et ce que je fais, c'est bon pour l'avenir, quoi. Et quand je suis pas là, c'est compliqué. En ce moment, il y a aussi le fait que, enfin, depuis toujours d'ailleurs, c'est cet équilibre à trouver puisqu'on est quand même dans un fonctionnement privé. Il faut qu'on soit complètement autonome et que ça rend le projet hyper fragile. Voilà. Là, par exemple, avec la période qu'on vient de passer, on a eu beaucoup de départs. Et puis l'instruction en famille qui était sur le point d'être supprimée ou en tout cas soumise à certaines conditions. Il y a eu beaucoup de départs. On a eu 8 départs en novembre, ce qui a extrêmement fragilisé notre structure. Et là, on ne sait pas où on en est. Donc ça me fatigue parce que j'ai envie d'avancer et en même temps, je ne sais pas où je vais.
Tout ça ménage la transition vers d'autres aspects de votre vie. L'enseignement que vous choisissez de dispenser, il correspond à un choix de vie. Vous, Dominique, vous avez dit que vous avez quitté l'éducation nationale parce que vous vouliez autre chose. Qu'est-ce que vous recherchez en dehors de l'enseignement ?
En dehors de l'enseignement. Moi, il y a beaucoup de choses. En fait, moi, ce qui...
Ou qu'est-ce que vous espérez ? Ou qu'est-ce que vous souhaitez ?
Moi, ce que je veux dire, en créant cette école, aussi, j'avais une vision de... Je ne me suis pas vraiment plus épanouie dans l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce que pour moi, tout était trop cloisonné. La vie, le travail, les matières, il y a un cloisonnement Ma vision, en fait, c'est plus une globalité, quelque chose de global. C'est-à-dire que je suis en vie, quoi. Je suis en vie, mon travail, c'est ma vie. Qu'est-ce que je fais de mes journées ? C'est ma vie.
Vous êtes en vie, mais pas n'importe comment.
Bien sûr.
Vous préférez être en vie en contact avec la nature, étant sensible à un certain nombre de choses. C'est ça que j'aimerais vous entendre me dire.
Moi, ma vision, ce serait une vie de village avec, bien sûr, qu'est-ce que j'aime faire ? J'aime la nature, j'aime herboriser. J'aime cuisiner les herbes sauvages, j'aime faire de la vannerie sauvage, j'aime...
Faire des choses de vos mains.
Voilà, faire des choses de mes mains et tout ça. Et tout ça, c'est, pour moi, ça doit faire partie de la vie, mais pas seulement de ce que... Aussi, ce que je partage avec les enfants. Ça fait partie des choses que je partage.
Et vous, Magali, est-ce que ça correspond, votre enseignement, votre implication dans cette école, correspond à vos choix de vie ?
Moi, je me considère en transition. C'est une étape, en fait. Non, ce n'est pas ce vers quoi j'ai envie d'aboutir, en tout cas.
Si j'ai bien compris, ce qui était important pour vous, c'était la liberté.
Oui, la liberté d'être et de faire. Donc, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui me rend vivant ce matin ? Ah, super. Vous êtes venu. Hop, c'était ça qui vous rendait vivant de venir faire notre interview. Et moi, ça me rend heureuse de m'offrir à cette interview parce que c'est bon pour moi, c'est bon pour vous et c'est bon pour l'avenir de partager ça. Moi, je me sens, par rapport à mes rêves, j'ai l'impression que c'est un peu ça la question, moi, je suis complètement effrayée par mes rêves. C'est-à-dire que je suis dans un processus où je suis en train de découvrir que mes rêves me font peur et que rêver
parce
grand...
Parce que vous désirez trop, vous désirez l'impossible.
Non, ah,
c'est le slogan de 68, hein.
Ouais,
Soyez réaliste, demandez l'impossible.
C'est ça. Et donc, je suis en train de prendre conscience de ça et j'ai lu une super phrase qui dit « Si tes désirs ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Et donc, je suis vraiment avec ça et je suis en train de oser accepter qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y aurait pas de limite.
Et ce qui se passe en ce moment ? Est-ce que ça vous abasourdit ? Est-ce que ça vous désespère ? Est-ce que ça vous fait peur ?
Ça réveille des petites peurs, oui. Ça réveille des peurs, c'est sûr. Après, moi, je choisis d'avoir confiance et de vivre mes peurs, de toute façon, de les accepter, de les accueillir, mais en même temps d'avoir confiance dans qu'on est en train, comme dit Magali, qu'on est dans un monde en transition, en fait.
Oui.
Et que on est tous à l'œuvre pour essayer d'améliorer, quoi. Moi, je pense que vraiment, ce qui se passe sur le plan extérieur, c'est le reflet de ce qu'on vit à l'intérieur, nos conflits à l'intérieur. Je pense que c'est en résolvant, en essayant d'accueillir et en essayant de travailler un petit peu tous les conflits que j'ai à l'intérieur, en essayant de pacifier tout cela, que je peux arriver à pacifier... ce qu'il y a à l'extérieur. Enfin, je ne sais
oui,
pas.
Mais ça, c'est une démarche individuelle, ça.
Oui, ça, c'est une démarche individuelle.
Le monde est grand et les humains sont nombreux.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'ils sont récupérables ou irrécupérables ?
Eh bien, je crois qu'ils sont récupérables. Comme je me sens récupérable, j'ai envie de me dire qu'ils sont récupérables. Je ne sais pas ce qu'il leur faudra pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont à regarder. Voilà.
Ben, peut-être la catastrophe.
Ils nous emmènent avec eux, peut-être.
Sur ces paroles terribles que nous allons quitter Magali et Dominique en les laissant à leur... il ne faudrait pas appeler ça à leur rêve, mais en les laissant à leur démarche courageuse et respectable. Au revoir.
Merci.
Et merci.
Au revoir, merci. Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Bonne journée. Study one no more. Study one no more.
I'm gonna put on my long white robe by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna put on my long white robe down by the riverside. Study one no more.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.